Ce podcast est une présentation de l'Entre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.com. Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films. Donc, je m'appelle Sébastien Balbino, j'espère que vous allez très bien, et la voix que vous allez entendre bientôt à l'autre bout des internets, c'est celle de David Jones. David, comment ça va?
Ça va très bien, merci toi-même.
Ah, ça va super bien, tu passes une belle semaine, ben deux semaines en
oui.
fait.
Oui. Oui, un beau deux semaines, très beau. On a joué à Donjons Dragons en masse, puis j'ai écouté des bons films, fait que c'est excellent. Tout va bien.
Ouais, parce que vous savez, on a le droit de savoir, je sais pas si les gens à la maison savent, on a le droit de savoir entre les épisodes, là. C'est pas une règle, tu sais. Donc, je vais te parler de quelque chose que je t'avais pas dit que j'allais te parler. Ça me tente.
On commence comme ça, tu veux, avec une surprise, là.
Dread sec de même. En fait, je suis pas mal certain que t'as pas écouté les Oscars hier soir.
Non, effectivement, j'avais un concert, fait que non.
Moi non plus. Mais est-ce que t'as entendu parler un peu de ce qui s'est passé aux Oscars?
Des pas gagnants? Du tout. J'ai pas eu le temps de regarder ça pantoute.
Moi, la seule chose qui m'importe de ça, je suis sûr que tu vas deviner c'est quel film.
Quel film est-ce que tu... Deadpool, j'imagine?
Non, il était pas ça, cette année encore, mais quel film aux Oscars?
Ah non, c'est vrai, c'est sorti en 2016.
Quel film aux Oscars, là? Qui, vraiment, je prenais pas.
J'avoue, je sais pas.
Mad Max.
Mad Max, ben oui.
Fait que c'était vraiment, aujourd'hui, je voulais en profiter pour dire à tout le monde à quel point j'avais raison et que les autres avaient tort. Non, je sais pas si tu veux qu'on était voir ce film-là, j'ai dit que ce film-là allait être en nomination pour meilleur film.
J'avoue, je me souviens de ça.
Bon, il a pas gagné, c'est certain, mais il était en nomination, mais ils ont quand même gagné 6 prix. Je pense 6 des 7 Oscars qui étaient en nomination. Je suis juste un peu frustré que George Miller? Ouais, le réalisateur, il a pas gagné meilleur réalisateur. Mais ça... Puis tu t'as pas su que Leonardo a finalement gagné son Oscar?
Ah ouais?
Ouais!
Finalement! C'est-tu pour Le Revenant?
Ouais. Le Revenant. Fait que... ouais, puis une autre affaire. Nous autres, on est musiciens, vous savez. Fait que tout le monde connaît... Tu connais bien Ennio Morricone?
Ben oui. Ah oui, moi, ça, je savais.
Il a gagné. Ouais, 87 ans. Fait que c'était le reporting des Oscars aujourd'hui. Les Oscars en presque pas direct de 24 heures plus tard. Mais peut-être que l'année prochaine, on va essayer de faire un effort pour écouter un ou deux films qui est en nomination dans la catégorie meilleur film.
Ben, ça dépend s'ils mettent Deadpool dans la liste des Oscars.
Pour meilleur film. J'imagine bien les membres de l'Académie qui sont tous vieux et des vieux monsieur blancs qui vont apprécier vraiment Deadpool. Donc, aujourd'hui, évidemment, c'est pas des Oscars qu'on veut vous parler parce qu'on a aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, on veut vous parler d'un film que David va nous présenter immédiatement.
Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans la présentation juste avant la musique du podcast, c'était un extrait du film Alien, l'origine, Alien l'original, pardon, dont le sous-titre est Le huitième passager. L'histoire, essentiellement, le synopsis, il s'agit en fait d'un vaisseau spatial qui revient sur Terre, un vaisseau cargo qui n'est pas du tout un vaisseau militaire ou rien de ça. Bref, les 7 passagers de ce vaisseau-là sont en hibernation et se font réveiller par l'ordinateur de bord parce qu'il y a un appel de détresse à proximité. Donc, ils s'en vont voir de quoi il s'agit. Il arrive là, il y a une espèce de bibitte qui s'appelle un facehugger, une espèce de bibitte qui a l'air d'une main qui saute à la face d'un des personnages. Il ramène le personnage en question à l'intérieur du vaisseau. Et puis, il sort de son abdomen un alien qui, spoilers, tue tout le monde.
Presque.
Ben, presque, oui, évidemment, parce que Sigourney Weaver, Ripley, elle réussit à survivre, mais tout le monde meurt
parce
à part
qu'il,
elle.
Parce qu'il faut
le show aussi, le show, il est
resté. Ah, le show, oui, c'est vrai. C'est parce que, tu sais, ça va pas bien me faire une franchise si tout le monde crève à la fin. Mais en passant, là, la première chose que je veux évacuer, c'est le film. En français, pourquoi il y a un sous-titre? Puis pourquoi il y a un sous-titre aussi mauvais que ça? Le 8e passager. Sérieux. En anglais, ça s'appelle Alien, tu sais.
Non, mais ça date de l'époque, tu sais, dans les années 80, les traductions françaises des films américains, c'était jamais vraiment excellent, tu sais. Ben, je veux dire.
C'est peut-être pas encore meilleur, là, mais.
Non, mais la traduction, tu sais, des films d'époque, un peu comme dans Le Prince à New York, tu sais. C'est un très bon film en français, puis c'est un très bon film en anglais, mais c'est deux films très différents, là. En tout cas, ça, c'est peut-être un sujet pour un autre podcast.
Ouais, c'est ça. On va faire une émission sur un prince à New York. Mais pour Alien, moi, c'était la première fois que je le voyais. J'avais jamais vu, je sais. Tirez-moi quelqu'un. Moi, j'ai vraiment trippé. Sérieusement, ça dure presque pas loin de 2 heures. J'ai passé un 2 heures assez sur un peu de l'adrénaline, tu sais.
Ah, ben, surtout quand c'est la première fois que tu vois le film.
Ouais, écoute, j'aime bien. Tu sais, pour moi, ça, c'est le typique film d'horreur. C'est un film d'horreur de qualité.
C'est magnifique.
Là. C'est un masterclass sur comment faire ça. Là,
moi, je vais me permettre d'enchaîner tout de suite sur mon premier point, qui est l'ambiance du film. Mm-hmm. Comme tu dis, c'est vraiment un très bon film de suspense, un très bon film d'horreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment un film de science-fiction en tant que tel. Ce qui est important dans le film, comme dans tous les films d'horreur ou les films de suspense, c'est l'isolation des personnages. Leur impuissance face à la situation, ils peuvent pas appeler à l'aide. Fait que là, justement, on a les espèces de personnages qui sont dans un super immense vaisseau. Puis comme je l'ai dit dans le synopsis, ce ne sont pas des militaires, ils sont pas habitués à se battre, ils sont pas habitués, il y a pas cette espèce de dynamique-là. T'sais.
C'est un vaisseau de cargo, là.
C'est ça. Et puis, ça fait en sorte que les gens sont loin de la Terre, sont pas en communication avec personne, sont vraiment laissés à eux-mêmes. Fait que là, quand ça se met à déraper, ça dérape dans le champ solide. Puis, c'est ça qui fait vraiment en sorte que nous, on s'identifie beaucoup aux personnages. Puis, un des grands succès aussi d'Alien, c'est la qualité des acteurs.
Ouais.
Qui réussissent vraiment à nous donner le sentiment d'inconfort puis de panique qu'ils ont.
Presque
fait que
tout.
Ça, mélangé à un paquet d'affaires, on va en parler plus tard, mais l'ambiance, le son, ça, en tout cas, c'est bien réussi.
Oh ouais, puis c'est... Tout le long du film, c'est ça, j'étais bien installé, bien euphoré sur mon divan, puis c'est, le film fait un très, très bon travail de te laisser comme, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, ils jouent le méchant, le monstre, parfaitement. Parce que tu le vois juste un peu, hein. Je sais pas sûrement. Plus
oui.
Le film avance.
À chaque fois qu'il y a une espèce de moment de. À chaque fois qu'il y a un moment de. Là! Tu sais, de quoi est-ce que tu fais un saut, là? C'est jamais l'Alien.
Ouais.
Jamais.
C'est chat, c'est n'importe quoi d'autre.
Mais l'Alien, tu le vois toujours arriver.
Oui.
Toujours à chaque fois.
Tu le vois de plus en plus. Le moment où tu le vois le plus, c'est à la fin du film, dans la navette, là. C'est là que tu le vois pour la première fois. Au complet, tu sais. Mais, non, ça, c'est cette ambiance-là, ce truc-là, c'est parfait. Parce que, oui, il y a tout le contexte du vaisseau spatial, tu sais, l'isolement, ils sont loin. En plus, non seulement ils sont dans un vaisseau, c'est bien difficile de se pousser de là, ils sont loin de tout. Ils sont pas là où ils devraient être. Ils ont encore des semaines avant d'atteindre un endroit potentiellement où quelqu'un pourrait les aider. Puis, ça rajoute à la chose, puis le fait que, ben, le vaisseau,
il est absolument gigantesque.
Oui, il est gigantesque, puis il n'y a pas de la lumière partout. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de truc. Tout le long du film, il fait pas mal noir. Le seul endroit où il y a de la lumière un peu partout, c'est la cuisine, le laboratoire, quand ils vont justement parler avec l'ordinateur, avec Mother. Là. Sinon, là, tout, ils se promènent. Là. Tu vois jamais au complet, puis Ouais, c'est
l'ambiance est vraiment là. Ouais.
L'aspect science-fiction, il est un peu là. T'as l'impression que c'est comme s'il avait pas exploité complètement le truc. Tu sais, s'il y a des choses qui préparent, qui, tu sais, il voulait créer un monde plus gros. Justement, l'ordinateur, tu sais, Mother, puis tous les trucs. Il parle d'affaires, puis tu sais jamais à quoi ça sert. Mais justement, je vais faire un parallèle avec Mad Max. Il t'explique pas tout. Tu sais pas tout ce qui se passe. Non. Tu comprends pas toute la patente. Mais t'as pas besoin. On s'en fout. Non. Ils vont à l'essentiel. T'as peur de la bibitte qui veut les manger.
Parce qu'un petit éditorial de ma part, tu sais, je trouve beaucoup que dans les films aujourd'hui, ils essaient de nous expliquer tout autour de l'histoire, qui sont pas des détails qu'on a vraiment besoin de savoir. Alors que comme dans un bon roman, d'ailleurs, je sais pas, je pense pas qu'Eliane, ça sorte d'un livre, mais il y a beaucoup, justement, de détails qui sont laissés à l'imagination de l'auditeur. Ce qui fait en sorte aussi que, tu sais, on se pose beaucoup de questions. Quand il arrive avec quelque chose de nouveau, on est comme surpris. Tu sais, l'espèce de... Ben justement, dans le vaisseau, ils n'ont pas d'armes. Fait que là, quand ils essayent de chasser le alien, ben, ils essayent de faire avec les moyens du bord. Fait que c'est tout le temps des espèces d'armes raboutées, de bouettes, de chocs électriques, de lance-flammes poches, puis de...
Ah ouais, c'est l'espèce de, ouais, le last flamme, puis l'espèce de bâton, le grain de choc électrique.
Ouais, c'est ça. Comme c'est du bétail, là. En tout cas,
moi, j'aime le détecteur de mouvement.
Ah ouais, c'est n'importe quoi.
C'est un peu con, ça. Ça, c'est comme, ok, ça détecte les mouvements à travers, genre, le vaisseau. En tout cas, c'est un peu.
C'est sûr qu'ils ont pris un aspirateur à main pour faire ça, là.
Ouais, c'est un Dustbuster, c'est certain.
Un Dustbuster, c'est sûr.
C'est Bilbo a fabriqué un Dustbuster qui, est capable de détecter le mouvement, parce qu'en passant, ouais, le scientifique de cette affaire-là est joué par Bilbo le Hobbit.
Que je me permettrai de nommer à partir de maintenant Robilbo. Parce que le personnage de Ash, c'est en fait un robot. Ouais. Spoiler.
Un robot qui run au lait, en passant, je sais pas si t'as remarqué, quand il se met à couler. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça, ceux qui ont vu sur Facebook l'image que j'ai mis pour dire que, il y a une émission aujourd'hui, c'est, puis probablement celle que je vais mettre pour l'émission sur le blog, ça va être la face de Bilbo couverte de lait, de Robilbo. Mais Robilbo couvert de lait. Mais il y a une chose aussi que j'ai adoré, le style. Quand ils vont sur la planète qu'on sait pas trop c'est où, puis qu'on voit le vaisseau, puis tout l'intérieur du vaisseau alien, puis les œufs, le facehugger, la créature en tant que telle. Je sais pas si tu connais l'artiste suisse, c'est H.R.
Hans Rudolf Geiger.
Geiger. Je pense que c'est Geiger. Il y a beaucoup de monde qui connaît, mais je connais aussi certains genres de ses affaires. C'est un gars qui est connu aussi beaucoup pour son art. Tu sais, il aime les choses weird. Un peu, là, c'est très sauvage, tu sais, beaucoup.
Il ça avait rend été inconfortable.
Ouais, il est très fort. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est vraiment hot. Si vous avez la chance d'aller sur Internet, regarder des œuvres qu'il a fait, que ce soit des peintures, des dessins, des sculptures, toutes sortes de trucs. Beaucoup de films sur lesquels il a travaillé, c'est magnifique. Puis ce qui est drôle,
mais
c'est
on reconnaît son style vraiment facilement. Hein?
Ben oui. Ça, justement, la créature en tant que telle, l'alien, on le voit tout de suite. Puis j'avais vu, il y a une couple de mois, un documentaire sur Alejandro Jodorowsky, qui était supposé d'avoir fait un film de Dune.
Ah oui.
Puis c'est lui qui avait fait en partie genre du design pour les
Asken.
Puis ils ont recyclé parce que le film n'a jamais existé, ce film-là. Ils ont recyclé une partie du design pour certains trucs dans Alien. Pas juste dans Alien, mais dans tout le reste de la série. Là. Mais ouais, puis je trouve que, tu sais, une affaire que je voulais parler, Ridley Scott, vraiment, tu sais, j'ai réussi à créer cette ambiance-là, puis c'est ça, c'est un chef-d'œuvre de direction, de réalisation, ce film-là. Pas vrai, c'est tellement bien fait. Chaque shot, chaque scène a de l'air tellement travaillé, planifié. Tout est parfait.
Ben, comme dans beaucoup de films d'horreur, c'est beaucoup sur le timing. Mm-hmm. Le timing de suspense, le timing du punch, un peu comme un bon show d'humour. T'sais. Moi, c'est vraiment le sentiment que ça me fait.
Ah ouais, puis ça, j'ai trouvé ça trippant. Il y a des. Tout le début du film, il n'y a pas de son, il n'y a rien, il y a un peu de musique. Puis là, on voit le vaisseau qui s'allume. Là, ça se promène. Ouais. T'as juste une caméra qui se promène dans le corridor. Là, tu les vois.
Tu ressens le vide. Tu ressens l'absence d'activité. Fait que là, justement, quand le monstre il se promène, le alien se promène, puis là, justement, tu sais qu'il n'y a pas d'activité autre que les 7 passagers.
Ah ouais,
Et le huitième.
puis ça j'ai dit le huitième. Faut pas que j'ai failli dire un mot, mais pour garder notre tag de clean sur iTunes, je le dirais pas. Mais fait quoi, une autre affaire que j'ai trippé, c'est la son tout le long du film. Je me suis rendu compte, écoute, c'est une œuvre d'art au niveau du son. Je me demande si on gagnait des prix pour le son. Parce que les gens qui ont fait le travail de tout ça, c'est hallucinant. Il y a tellement... Il y a tout le temps... Il y a pas souvent... Oui, il y a un peu de musique. Il n'y en a pas beaucoup. Pas souvent. Mais il y a une omniprésence de son, puis une quantité industrielle. Puis, regarde, pour le fun, ça tente, David, on va faire écouter à tout le monde le début du film quand l'ordinateur du Nostromo...
Ah oui. T'sais? Direct sorti des années 80. Ben, 79. Oui.
Écoutons ça. Ça, c'est de l'ordinateur.
Moi, j'avais une imprimante à la maison qui faisait ce bruit-là quand j'étais petit.
On va aller dans l'espace avec ça à un moment donné.
On est allé dans l'espace avec mon cellulaire, là, l'équivalent
ouais,
de mon
vrai. Mais, tu sais, ça vous donne une petite idée. Il y a tellement d'affaires, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le bruit de fond du Nostromo, il est tout le temps là. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a jamais de... Il y a un silence dans le film, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a toujours l'espèce de bouh du vaisseau.
Ouais, il y a continu. Du remplissage sonore, mais il n'y a pas nécessairement de... Notre attention n'est pas portée vers rien de sonore. C'est juste un fond, vraiment, tout le temps. C'est super bien fait, je trouve.
Ah non, écoute, c'est génial, puis... C'est ça, ça garde toujours une tension. Parce que il y a rien de plus inconfortable dans la vie que le silence. T'sais, on est habitué de voir un film, puis il y a toujours de la musique, il y a toujours quelque chose. Puis il joue avec ça, parce que des fois, il y a de la musique. Là, tu fais, il y a de la musique, ça va chier, il va arriver quelque chose. Puis effectivement, il y a quelque chose qui arrive. T'sais. À un moment donné, oh, il y a de la musique, ça va chier, et se passe rien. T'sais. Ça, j'ai trippé. J'ai aussi aimé le fait que, bon, on est bien accroché sur l'alien. Hein? C'est le méchant du film. Mais pas complètement, tu sais. Je veux dire, Robilbo,
ben,
là...
Entre toi pis moi, Robilbo, il est bien plus méchant.
Ben hein. Oui, parce que c'est de sa faute que tout se passe. Parce que je me suis rendu compte que ce film-là, après une demi-heure, là, il aurait pu finir.
Oh oui, oh oui, absolument.
Parce que Ripley, il veut pas ouvrir la porte. Puis elle dit non, ouais, j'ouvrirai pas la porte.
Ça prend une zone de quarantaine, tu sais, un temps de quarantaine, quand il essaie de ramener... OK, on va le dire, là.
Ben ouais,
mon deuxième jeu de mots, là, c'est que la personne qui se fait justement pogner avec le face hugger, qui ramène donc l'alien à l'intérieur, l'acteur, c'est John Hurt. Et fait que mon jeu de mots, c'est Dr. I'm Hurt.
Oh! Non, mais comme je te disais tantôt, il n'a jamais aussi bien porté son nom de sa vie. Mais tu sais quoi? Ce film-là m'a permis une chose. C'est de savoir que John Hurt a déjà été jeune. Parce que ça, je savais pas. Je pensais qu'il avait toujours été vieux. J'ai fait comme, hein? Puis c'est drôle parce qu'il a la même face. Il a pas changé. Il est juste plus plissé aujourd'hui. Je suis gris, tu sais.
Mais d'ailleurs, c'est une super belle performance de Dr. I'm Hurt. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas qui catchent pas le jeu.
Vous écoutez le Day of the Doctor.
Day of the Doctor dans la série Doctor Who. John Hurt fait le War Doctor, qui est le docteur entre le 8e et le 9e, je me souviens bien. Et bref, John Hurt, fait que I'm Hurt, parce qu'évidemment, il est le premier à mourir. C'est lui que sa cage thoracique explose.
On peut l'entendre mourir. Ça tente de l'entendre mourir. Okay.
Ah oui, c'est magnifique. Moi, c'est les mains. Quand ça sort, cette affaire-là, ouais. Cette bébite-là. Là, il y a les mains de John Hurt qui shake là, sur lui. En tout cas.
C'est carré. Puis, écoute, c'est un long bout de tout le monde, mais ça vaut la peine d'écouter. Ceux qui ont vu le film, là, juste à l'écouter, vous allez le revoir, cette affaire-là. Ceux qui n'ont pas vu le film, en gros, ce qui se passe, c'est que John Hurt, l'alien, il sort de son estomac, littéralement. C'est magnifique. Écoutons un peu John Hurt qui souffre.
Ah!
C'est les liens qui regardent.
Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal.
Petit bout, on attend la fin. Tu sais que j'ai failli capturer genre cette partie-là de Spaceballs puis le faire jouer à la place.
Oui.
Mais. Alors, écoute, cette scène-là est magnifique. Elle est écœurante. C'est hallucinant parce que on l'a tout vu. Même si on n'a pas vu le film, tout le monde a vu ce bout-là. Mais c'est tellement efficace parce que c'est encore. Tu sais, qu'est-ce qui est pire qu'un monstre qui bouffe tout le monde? C'est comme une espèce. C'est une espèce qui te pond son œuf dans ton estomac,
ouais,
qui sort de toi, puis qui bouffe tes amis. Ça, c'est encore mieux, tu sais. Mais. Puis tout le facehugger. C'est drôle parce que c'est ça, t'as vu mon gars, Julien, il y a un toutou de facehugger.
Ah ouais, oui.
Puis quand j'ai vu le facehugger dans le film, je suis fait comme, ouh, une chance qu'il n'a pas vu celui-là parce que.
Il dormirait plus.
Non, je suis pas certain, là. Puis, c'était écœurant comme. Puis ça fait rien. C'est ça qui est drôle. Le 90% du temps quand tu le vois, oh, il est juste là, dans la face de John Hurt. Puis, certaines affaires, tu sais, j'essayais en écoutant le film de trouver des répliques vraiment mémorables ou quelque chose.
Ouais, culte.
Je l'ai pas trouvé tant que ça, mais j'ai adoré celle. Je vais le faire écouter celle sur justement. Il essaie de couper le.
Je vais peut-être juste faire un petit peu d'explication pour ceux qui n'ont pas vu le film là, ou qui connaissent pas le lore, le contexte, le but de Alien. Donc, c'est ça, c'est que ces créatures-là pondent des œufs. Ils pondent des œufs et les facehuggers, donc c'est une espèce de main avec une queue, ça saute au visage de l'être. Qui est à proximité, puis ça pond un œuf à l'intérieur de lui. L'œuf qui est à l'intérieur de lui va aller mélanger son ADN avec l'ADN de l'autre pour pouvoir toujours vivre dans l'espace, dans l'environnement de l'autre. À ce moment-là, la bébite, le alien, sort du corps de la personne, tue tout le monde va pondre d'autres œufs sur les corps des autres morts. Et puis le cycle recommence. Mais donc, le facehugger, qui est à l'origine de tout ça, qui sort de l'œuf pour sauter sur l'autre, évidemment, pendant qu'il est en train de pondre son œuf, faut pas qu'elle se fasse déranger. Fait qu'elle garde l'autre en vie à tout prix. Et puis, pour éviter l'enlever. Il y a un mécanisme de défense. Et puis c'est à ce moment-là que Sébastien, je t'invite à peser sur play pour ton extrait.
Let's go.
Molecular acid. You must be using it for blood.
It's got a wonderful defense mechanism. You don't dare kill it.
Ah, c'est ça. Il saigne de l'acide.
Fait il saigne de l'acide.
C'est magnifique. C'est une belle scène, là, parce qu'il freak, là. Ils sont dans un vaisseau. Faut pas oublier, c'est dans un vaisseau spatial, là. Si ça passe à travers l'extérieur du vaisseau, ils sont faits.
C'est fait.
C'est fini.
Et d'ailleurs, il y a une très belle scène. Je sais pas si t'as remarqué ça, là, mais bon, il essaye de couper le facehugger. Il y a une goutte de sang qui tombe à terre. Ça fait un trou. Il descend à l'étage d'en bas. Il regarde au plafond le trou qui a été fait. Puis après ça, il se rend compte qu'il y a un autre trou en bas. Il descend d'un autre étage et c'est le même trou au plafond. Les deux trous au plafond, c'est les mêmes.
Je n'avais pas remarqué. On recycle les trous dans les années 70. Ça fait un peu bizarre ce que je viens de dire. Là. Mais... Donc, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup... En tout cas, j'ai pas trouvé côté réplique là, d'affaires... comme mémorable, mais il y a des scènes magnifiques. J'ai capturé aussi l'audio de ça. La scène, on découvre que Bilbo est en fait Robilbo. C'est hallucinant. Et c'est encore une fois, je fais comme, man, il y avait d'autres bruits que j'avais capturés. Je fais, non, il y a comme trop de sons bizarres. C'est correct, je vais pas vous faire écouter des sons bizarres pendant 15 minutes. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi, un, l'espèce de robot, il coule. Du jus blanc. Du lait. Et deux, c'est quoi le bruit qu'il fait, man? Je veux juste. Si y a quelqu'un. On va l'écouter, là. Si y a quelqu'un qui a une réponse à ma question, là, ben écrivez-moi, s'il vous plaît, OK? Continue. C'est quoi ça?
Très bonne question.
Ouais, Ridley Scott, il avait une drôle d'idée sur le futur.
Mais parlant de répliques cultes un peu, t'en avais souligné une là quand on se parlait avant l'épisode.
Ben, c'est certain. Le numéro 6. C'est comme il y en a une que tout le monde connaît là. Je pense qu'il y en a une que. Voyons, c'est dans Aliens, dans le deuxième aussi, qu'il y en a une que tout le monde connaît. Mais celle-là aussi, je vais vous la faire écouter. Évidemment, une grande réplique de Sigourney Weaver qui fait tout un job dans ce film-là, en fait.
I got you.
C'était écœurant. Avoue, quand tu le vois dans le film, il y a une satisfaction parce que, écoutez, le film il est sorti en 79. On va pas s'en retenir, c'est spoiler. On est persuadé à ce point-là que l'alien est mort.
Ouais,
on est persuadé.
Évidemment, non.
Évidemment, non. Parce qu'après ça, on a le droit à la scène où Sigourney Weaver se déshabille pour aller dans la pod.
Ah ouais, le soute. Hein, ouais.
Avec ses culottes minuscules.
Là, une craque de plombier.
Oh, ouais,
de plombière.
J'ai fait comme. Ah, bon, c'est drôle, ça vient d'où tout à coup, genre? Il y a comme 15 minutes,
Mais non, mais c'est tellement dans les films des années 80, là. Tu sais, l'espèce de. Ben, c'est pas un film des années 80, mais voyons, Watchmen, là, qui a une scène de baise
dans
les yeux.
Ah, c'est
vraiment dans le style des années 80, puis ça rend tellement mal à l'aise, trop intense.
Il y a une craque de fesses, comme. Hein? Pourquoi? C'est quoi, ça distrait les liens, ça? Mais. Puis en plus, tu sais, Sigourney Weaver, elle n'a pas de fesses. C'est plate, non? Mais c'est ça. Fait que bon, mais en même temps, ça set la fin qui est absolument délicieuse, je trouve. Là, la manière qu'elle a réussi finalement à se débarrasser de la bébite. Là. Puis,
c'est vraiment magnifique.
Puis ça, c'est super, tu sais. Fait que oui, c'est un super film. Des acteurs qui font des bonnes performances, même les rôles un peu moins importants. Moi, j'ai bien aimé quand même Tom Skerritt, là, qui fait le capitaine. Tu sais, je trouve qu'il fait le capitaine très bien. Tu sais, il joue super bien le rôle de capitaine. C'est super. J'ai bien aimé tout le monde. Sauf Lambert.
Lambert?
C'est pas Lambert.
Ah, oui,
c'est
oui,
la
oui.
Fille poche, là.
J'ai son nom ici. Veronica Cartwright. Puis d'ailleurs, en allant voir sur IMDb, là, elle a fait des apparitions dans bien des affaires, mais elle a vraiment pas joué dans grand-chose. Sur IMDb, il est écrit qu'elle a fait beaucoup de choses, là, 140 apparitions télévisuelles. Mais écoute, non, ça c'est vraiment pas bon. C'est vraiment le maillon faible.
Ça te tente-tu d'entendre un peu de overacting?
Ah ouais, donc.
Let's go, on va écouter un peu de overacting, let's go.
Proceed with Dallas's plan. What? And end up like the others? Oh, no, you're out of your mind.
You got a better idea?
Yes. I say that we abandon the ship. We get the shuttle and just get the hell out of here. We take our chances and just hope that somebody
Lambert,
pick us up.
The shuttle won't take four.
Well, then why don't we draw straws?
I'm not drawing any straws.
Moi, j'aime l'autre. I'm not drawing any straws. Lui, là, il a le goût de la tuer, la bébête, tout le long du film. Mais ouais, c'était carrément. Quand j'ai écouté le film l'autre jour, j'ai reculé. J'ai réécouté. Non, ça se peut pas. T'sais, j'arrêtais pas de la réécouter. C'était magnifique. Qu'est-ce que t'as pensé de la magnifique musique?
Ben, moi, j'ai trouvé ça tellement efficace. Tellement efficace. Ben, bravo à Jerry Goldsmith pour avoir.
Pour avoir fait beaucoup d'argent en peu de temps.
Ben oui, mais plus que ça, c'est quand tu t'appelles. Tu sais, mettons que moi, je me ferais appeler pour faire de la musique pour un film. Je beurrerais ça de A à Z de musique. T'sais. Alors que là, Jerry Goldsmith, il a vraiment eu la bonne intuition de pas n'en mettre trop. C'est très, très, très épuré comme style musical. Une note de flûte, un petit trémolo de violon. C'est minimaliste comme musique. Ce qui fait en sorte que ça devient très efficace, justement, dans l'espèce d'ambiance, dans l'espèce d'inconfort qui est véhiculé. Comme je le disais au premier épisode, d'après moi, la musique dans un film, ça sert à rajouter à la trame narrative. Et puis là, c'est très bien réussi parce que ça rajoute à l'inconfort.
Ah oh ouais, c'est super. Là. On l'entend surtout au début. Plus ça va, moins il y en a. Il y en a un peu à la fin. Mais j'ai trouvé c'est ça. Ça fait un job. C'est parfait, c'est efficace. Pas besoin.
Ah oui.
Plus que ça, ça aurait été inutile.
Ah oui, absolument. En fait, plus que ça, je pense que ça aurait nui à l'ambiance du film.
Oh ouais,
si on avait eu, mettons, une sonnerie de trompette dans le milieu de l'affaire, ça marche pas, là, tu sais, je veux dire, c'est pas du tout ce genre de film-là. Non, c'était vraiment, vraiment efficace. Bravo, Jerry Goldsmith.
Bravo, bravo. Comme je vous dis, j'ai trippé sur le film, c'est un bon film, j'étais bien content de le voir, là, ça manquait à ma culture, Alien. Si vous l'avez jamais vu, qu'est-ce que vous faites? Non, mais écoutez-le, je vous le recommande fortement. Puis si vous l'avez déjà vu, réécoutez-le, ça fait du bien. Faites-vous une petite soirée film d'horreur. Qu'est-ce que t'en penses, David?
Ah oui, absolument. Je le recommande à tous mes amis, toi inclusivement. Justement, c'est pour ça que tu
l'as vu. Je l'ai déjà vu, fait que c'est correct. Mais donc, avant de vous quitter, je veux juste vous parler un petit peu de... On est gentil avec vous, on vous aime beaucoup. C'est pour ça qu'on fait un petit concours. On a deux paires de billets à faire tirer pour le concert super-héros de l'Orchestre Avant de musique de film. Donc le concert, il va avoir lieu à la salle Marguerite Bourgeois à Montréal le 19 mars 2016. Parce que oui, je ferai pas tirer des billets pour l'année passée. À 19h30. Donc, si ça vous tente de participer, si vous voulez gagner des billets pour ce super concert, on va vous jouer de la magnifique musique. Si vous avez vu des films de Marvel dernièrement, on va vous jouer aussi la musique de Batman Returns, qui est un magnifique film aussi, de Danny Elfman. Plein, on va jouer la musique de Superman, de John Williams. Ça vous tente de gagner une paire de billets, parce que le concert en ce moment, il est tout vendu. Il est sold out. C'est à peu près votre seule chance d'avoir des billets, c'est nous. Puis tout ce que je fais d'autre sur mon blog, là, j'essaie juste que David se sente bien, qu'il donne quelque chose aussi. Mais donc, vous avez juste à m'envoyer un courriel à sbalbino@moi-geek.com. Vous venez sur le blog Moi Geek, vous allez voir aussi dans Contact comment nous contacter. Vous écrivez un courriel. Pas besoin d'écrire un message, vraiment. Vous avez juste à mettre dans le sujet concours au VMF. Puis je vais faire tirer la semaine prochaine. L'émission, on va annoncer qui est-ce qui a gagné. On va faire tirer deux paires, en fait. Là, on a une paire pour chaque personne. Puis tant qu'à parler de l'OVMF, hein, la semaine passée, je vous ai fait une plug pour le concert de Super Hero. Mais comme je vous ai dit, il est complètement vendu. Mais on fait quelque chose de vraiment super à la fin d'année. On fait un concert de Star Wars épisode 7. Oui, mesdames et messieurs, Star Wars épisode 7. On fait deux concerts. Et les billets s'envolent vraiment à un rythme déchaîné. D'ici la fin du mois, on va probablement réussir à tout vendre. Fait que si vous avez le goût de voir ça, puis de triper avec plein de, avec 700 autres geeks dans une salle de concert à écouter une gang de musiciens qui sont pas payés quand même, hein? Incluant moi, là. Moi, j'essaie de pas trop faire baisser le niveau de la patente. Donc, les concerts...
Mais dis-moi, Sébastien.
Oui?
Qu'est-ce qu'on va faire dans deux semaines?
Ah, on le fait pas la semaine prochaine?
La semaine prochaine?
Ouais, ouais.
Est-ce qu'on peut faire ça la semaine prochaine.
Ok, moi je voulais faire ça la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Ah oui! Prochain épisode. On va faire Starship Troopers. Voyons, j'avais un blanc de mémoire. Ouais, Starship Troopers, je l'ai jamais vu non plus. Toi, tu l'as vu, hein?
Moult fois.
Excellent.
Le 1, le 2 et le 3.
Oh my god.
Je sais plus.
S'il y en a un, tu l'as vu. Fait que oui, fait que dans le prochain épisode, ça va être sur Starship Troopers. Avant de terminer, si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Hein, je vous ai déjà donné l'adresse. Venez voir sur Facebook, Vision X, Moi Geek, Twitter, Moi Geek, etc., etc. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Merci beaucoup, David.
Ben, merci à toi, Sébastien.
Et on va voir si je pèse le bon piton. On se revoit la semaine prochaine.